toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret.
C'est l'histoire d'un escroc de haut vol, artiste en son genre, armé de sa seule séduction et d'une capacité d'affabulation hors norme. Il a dupé des dizaines de femmes, mené de front plusieurs vies conjugales. Pour certaines, il était Alexandre, le chirurgien thoracique entièrement dévoué à son travail hospitalier. Pour d'autres, un haut cadre de l'industrie automobile ou un urgentiste de Médecins sans frontières. Sonia Kronlund, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
À ce serial Lovers, ce champion du baratin et du mensonge, vous avez consacré un livre, puis un film, L'homme aux mille visages, en salle mercredi prochain. Alors Sonia Kronlund, les auditeurs de France Culture connaissent votre émission Les Pieds sur Terre, qui a fêté ses 20 ans en 2022. Et c'est au cours, d'ailleurs, dans le cadre des Pieds sur Terre, que vous avez entendu parler de cet homme pour la première fois.
Oui, ça arrive rarement dans une carrière de documentariste ou journaliste de recevoir un coup de fil qui va conditionner les 7 prochaines années de votre vie et d'avoir vraiment une jeune femme qui avait envie de témoigner, envie de raconter son histoire pour agir en fait. C'est-à-dire qu'elle avait découvert, alors qu'elle était enceinte, que son compagnon n'était pas celui qui disait être, qu'il ne s'appelait pas comme il s'appelait, qu'il n'avait pas le job qu'il disait qu'il s'appelait et qu'il avait 4 autres femmes en même temps.
Il avait menti sur tout. Et pendant si longtemps.
Ouais. Il s'était même créé une biographie familiale, des sœurs avec des prénoms. Et chaque sœur avait son existence propre. Elle vivait quasiment avec eux. Et donc, quand elle découvre ça, après le moment d'abattement, elle a envie de témoigner. Et donc, elle me téléphone.
Et vous, vous décidez de partir sur la piste de ce Ricardo, on l'appellera Ricardo, en fait il a plusieurs dizaines de patronymes. Ce samedi, dans tous les cinémas du monde, on revient aussi sur l'affiche du Festival de Cannes qui vient d'être dévoilée lors de la traditionnelle conférence de presse. C'était à Paris, jeudi dernier.
Tous les cinémas du monde sur RFI.
Cette année, 19 films en compétition et une forte présence américaine avec des ténors comme Francis Ford Coppola et David Cronenberg. Mais pas seulement, on écoute le directeur artistique du festival, Thierry Frémaux.
Nous, on commence toujours par les films. Donc c'est les films qui décident d'être sélectionnés. J'ai l'habitude de dire, c'est pas moi qui sélectionne les films, c'est les films qui se font sélectionner par nous. Tellement ils sont là et ils disent, j'existe et prenez-moi. Bon, il est vrai que si la grève des scénaristes et des acteurs a impacté la production, et on en voit les effets, hélas, un peu négatifs dans le manque, peut-être, de films américains en salle en ce moment. Nous, on voit tellement de films qu'il y avait quand même des propositions américaines assez fortes, et on se retrouve finalement, alors qu'on pouvait imaginer qu'il n'y aurait pas une représentation très forte du cinéma américain, mais finalement, si. D'abord parce que Paul Schrader, Sean Baker ou Ali Abassi figurent en compétition avec des films très, très, très américains, d'ailleurs. Mais aussi, en effet, parce que Kevin Costner hors compétition, Francis Coppola en compétition. Donc, finalement, la présence américaine est forte.
Un autre film qui va faire le buzz, c'est Mad Max 5 Furiosa, projeté hors compétition. Sans oublier la palme d'honneur, elle aussi très hollywoodienne, puisqu'elle sera décernée au papa de la guerre des étoiles. J'ai nommé, bien sûr, George Lucas.
Alors, la palme d'or d'honneur est une tradition assez récente, finalement, dans le Festival de Cannes. Et c'est une manière pour nous de célébrer des gens qui font aussi partie de l'histoire du festival et qui est celui qui, du coup, est devenu le grand mogul hollywoodien, possesseur d'un studio, qui a inventé quelque chose qui aujourd'hui fait partie de la mythologie romanesque contemporaine, qui s'appelle Star Wars, qui a inventé le personnage d'Indiana Jones, etc. C'est un grand géant du cinéma, on ne va pas attendre trop non plus pour dire... D'ailleurs, il a été heureux de cette invitation, il est très heureux, pour lui dire « Georges, reviens parce qu'on voudrait un petit peu te célébrer ». Et on a bien vu aux réactions qu'il y avait partout, qu'il n'y a pas que nous qui avons envie de célébrer Georges Lucas. Et par ailleurs, il y aura d'autres palmes d'or d'honneur qui seront annoncés dans les jours qui viennent.
Oui, d'autres palmes d'or d'honneur et puis certainement de nouveaux films dans la compétition et plus généralement en sélection officielle. Voilà, donc ce sera déclaré dans les semaines qui viennent. Mais pour revenir sur la compétition, tous les regards se tournent également vers le français Jacques Audiard en compétition avec Emilia Pérez, une comédie musicale dans les cartels mexicains. À noter la présence de 4 réalisatrices en compétition cette année, dont la française Coralie Farja, qui livre avec The Substance un film d'horreur avec Demi Moore. Voilà, 4 films sur 19. On voit bien par là qu'on est encore très loin de la parité, à Cannes en tout cas. À noter une belle présence de l'Afrique et du Moyen-Orient dans les sections parallèles. On citera le Marocain Nabil Ayouch avec Tout le monde aime Touda, le portrait d'une danseuse. La Zambienne, Rungano Nyoni, son film s'appelle On Becoming a Guinea Fowl. Et comme son titre l'indique, c'est une coproduction Guinée-Zambie. Et puis, deux tout jeunes réalisateurs, l'un d'Arabie Saoudite, c'est Toufik Al-Zaidi, l'autre de Somalie, Mo Haraoué. Son film s'appelle Le village près du paradis. Et Thierry Frémaux s'en réjouit.
Chaque année, il y a des nouveaux entrants, des pays nouveaux qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir. Je ne dis pas que nous faisons... que nous avons un regard particulier sur ces pays-là, parce qu'encore une fois, il ne faut jamais cesser de le répéter, c'est les films d'abord. Donc les films s'imposent à nous, mais s'imposent à nous dans un désir que nous avons de dire chaque année, voilà ce qu'est le cinéma mondial. Donc quand on voit, il n'y a pas pléthore de films somaliens, de films saoudiens, de films venus de Guinée ou de Zambie comme cette année, on prête une attention particulière. Et en effet, l'Arabie Saoudite qui marque son intérêt pour le cinéma, et nous on veut aider ça, on veut dire que le cinéma est un instrument de paix, un instrument de dialogue entre les peuples, et que c'est tout à fait de bon augure de savoir que le cinéma contribue en Arabie Saoudite à changer un peu les mentalités locales et de faire en sorte que ce pays continue à s'ouvrir. Eh bien, nous nous ouvrons à lui en ayant ce premier film.
Voilà, Thierry Frémaux ne l'a pas cité, mais nous, on le cite parce que c'est Boris Lochkin. C'est un réalisateur dont on suit depuis longtemps dans tous les cinémas du monde le remarquable travail de formation qu'il fait dans le cadre des ateliers Varan en République centrafricaine. Et il est en sélection officielle à Cannes cette année avec Souleymane, le portrait d'un jeune migrant livreur dans les rues de Paris. Sinon, que signaler ? Eh bien, le retour en force de l'Inde et de la Chine après la crise du Covid. Plus que jamais, le Festival de Cannes se fait la chambre d'écho des soubresauts du monde, surtout dans ses sections parallèles où abondent les documentaires. L'Ukrainien Sergueï Losnitsa propose l'invasion. Le titre se passe de tout commentaire. Le Haïtien Raoul Peck dessine le portrait du photographe sud-africain Ernest Cole et interroge la question de la restitution des œuvres d'art. À signaler aussi La Belle de Gaza de Yolande Zoberman ou encore Rendez-vous avec Pol Pot. Là aussi, le titre se passe de commentaire. Rendez-vous avec Pol Pot du Cambodgien Ritipan.
Il m'a dit qu'il s'appelait Ricardo et qu'il était brésilien. Lui, il était argentin.
Très romantique.
J'étais complètement sous le charme, quoi.
Il a travaillé dans le télécom.
Ingénieur chez Peugeot.
Photographe.
Médecin.
Fin de compte, voilà, il n'avait pas de travail du tout.
J'ouvre le navigateur dont il se sert et là, via l'historique, je peux rentrer dans tous les comptes qui sont les siens.
Tout
était faux, quoi.
Sonia Kronlund, sur l'air de Figaro, la bande-annonce de votre film « L'homme aux mille visages », l'autopsie d'une imposture amoureuse, d'un menteur pathologique qui a pris dans ses filets des dizaines de femmes. Alors, comment le décrire? Ricardo, donc, vit souvent au crochet de ses conquêtes, mais ce n'est pas précisément un gigolo ni un brouteur du nom de ces jeunes gens, souvent depuis la Côte d'Ivoire, en tout cas depuis l'Afrique, tire un maximum de profit d'Occidental en mal d'amour. Ce n'est pas non plus l'arnaqueur de Tinder, dont Netflix a fait ses choux gras. Ricardo, finalement, c'est l'une de ses ex-compagnes, ou plutôt devrais-je dire victime, qui en parle le mieux. Je la cite, « Cet homme est à lui seul un logiciel de création de scénario. »
Oui, effectivement, c'est un grand scénariste et c'est aussi un grand acteur. Par exemple, avec toutes ses compagnes, il passe beaucoup de temps au téléphone à parler à sa famille imaginaire, à parler à ses collègues imaginaires, etc. Et il faut imaginer, nous, qu'au bout du fil, il n'y a probablement personne. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et de la même manière, il va s'adapter, y compris son caractère, au désir des femmes. Donc avec l'une, il va être passionné, volcanique, romantique. Et puis avec l'autre, il est quasi pépère. Il se couche tôt, il se lève tôt. Il a des rêves bourgeois ou en tout cas de fonder une famille. Donc voilà, c'est une personnalité complexe.
Comment ces femmes ont-elles pu se laisser embarquer par cet improbable Latin lover? Réponse dans quelques minutes avec vous, Sonia Kronlund. Mais avant, on écoute Lassa, des Cara à la pared.
Good.
bien sur RFI dans tous les cinémas du monde avec notre invitée Sonia Kronlund. L'homme aux mille visages, c'est l'histoire de cet homme. Vous partez à sa recherche, Sonia, mais aussi de ces femmes trompées, bafouées, qui souvent oscillent entre la honte, la rage et leur... Le sentiment que plus jamais elles ne feront confiance.
C'est-à-dire qu'en fait, chacune d'entre elles est très différente. Et c'était important pour moi de montrer qu'elles étaient très différentes parce que, de ce fait, il n'y a pas un profil de victime type. Et du coup, il n'y a rien en elles qui les rende coupables, finalement, de cette fait avoir. Et ensuite, de la même manière, elles réagissent très différemment, ce qu'on appelle leur parcours de réparation. Il y en a une qui veut lui écrabouiller la gueule sur le trottoir.
Il y en a une qui veut le couper en petits morceaux.
Voilà. Et puis, il y en a une autre, plus impériale, qui est plutôt en empathie. Enfin, voilà. Et
c'est ça qui... Il y a pitié de lui, presque.
Ouais, exactement. Et c'est ça que j'ai trouvé assez beau, finalement, c'est qu'elle soit si différente, ce qui veut dire que ça peut vous arriver, Elisabeth, aussi bien qu'à moi.
Alors justement, comment une femme qui est intelligente, brillante, belle, peut se laisser piéger ? Ça va très vite.
Il est très doué, et puis... En fait, je pense qu'à la base de nos relations, les gens, on se croit. Enfin, vous m'invitez sur RFI, je ne suis pas en train de vérifier qui vous êtes. Vous voyez, en fait, on me dit quelque chose, vous voyez, je vous crois. C'est la base de la communication entre les êtres humains. Donc, il n'y a rien de particulièrement crédule à rencontrer un gars qui vous dit « je suis chirurgien ». Bah oui, il est chirurgien, je ne vais pas demander son diplôme.
Et en plus, il produit beaucoup de photos, de preuves, qu'on lui demande. Ouais.
Il sature quand même, ça c'est une technique très classique de manipulation qu'on retrouve chez plein de, y compris les brouteurs d'ailleurs dont vous parliez. C'est vraiment de saturer d'informations, de textos, de photos, de documentation un peu foireux quand même. Les photos elles sont quand même, quand on les regarde de près, mais en fait c'est la quantité qui compte.
Il y a un mot valise anglais qui le définit bien finalement, c'est con artist. C'est-à-dire un artiste des faux-semblants, un escroc. Hein, donc. Mais il y a un effet paradoxal, c'est-à-dire que tout à l'heure, je citais les scores époustouflants de l'arnaqueur de Tinder sur Netflix. Il y a une part de fascination qui dessert les victimes.
Mais j'ai essayé justement dans le film de maintenir un équilibre entre la fascination qu'on peut avoir pour le talent de cet homme, qui quand même arrive à jongler, et l'empathie et même la nécessaire condamnation de ce qu'il fait. S'il ne faisait de mal à personne, il serait génial. Or, il fait quand même beaucoup de mal. Et à un moment donné, j'ai choisi mon camp, c'est-à-dire je suis du côté des femmes. Et il faut, voilà, même si on peut être fasciné, il faut y renoncer.
Justement, est-ce que vous avez compris, parce que souvent on s'engage dans une enquête et on est très excité au départ, sauf que là ça a été vraiment une enquête, vous le disiez, de plusieurs années au long cours. Est-ce que vous, à un moment donné, vous avez compris ce qui vous aidait à tenir, à être aussi persistante dans votre recherche, qui était très difficile par moments.
C'est très juste ce que vous dites. Souvent, on me demande de temps en temps pourquoi, qu'est-ce qui t'a intéressé. En fait, au départ, on ne sait pas. On sait que ce sujet vous passionne et on y réfléchit au fil des années quand on nous pose la question. Et en fait, il y a deux choses. D'abord, j'ai un caractère assez persévérant. Et puis, une fois que j'ai commencé, je n'allais pas m'arrêter. Et puis, c'était très difficile. J'aime bien faire les choses difficiles. Vous voyez, mon film d'avant, j'étais en Afghanistan. Voilà. Et puis, il y a effectivement la solidarité avec les victimes, et puis la volonté d'avancer, de faire une enquête, qui a fini par me faire comprendre que j'avais vécu quand même des histoires assez similaires. Ce qui est étonnant, c'est que je commence en 2017, cette enquête, et 2017, en fait, c'est MeToo. Et le film, il évolue et il avance en même temps que MeToo. Et moi, je fais mon petit MeToo, en fait, à mon petit niveau. Le film, c'est mon petit MeToo perso, quoi.
Enfin, mes amis me disaient quand même, ce gars est génial et tout le monde l'aimait beaucoup, en fait.
Ah ouais. Et ta famille aussi?
Oui, ma famille, mes parents, mes amis, des gens très différents les uns des autres. Et à chaque fois, quand je leur présentais, ils étaient vraiment emballés, quoi.
Mi corazón sufre y se llena de enojo.
On s'est donné un rendez-vous là au métro en vert. Et on est monté à Sacré-Cœur. Il m'a dit, je vais me marier ici. Bah, il a dit en rigolant, peut-être c'était une blague, mais vous voyez, c'était sa méthode d'approche.
Cet extrait de L'homme aux mille visages, on est Sonia Kronlund dans un Paris de carte postale. Alors on peut décrire le cadre, on est au pied du Sacré-Cœur, il y a des pelouses, des amoureux qui s'embrassent et voilà, ce sont deux victimes de Ricardo qui parlent. Et on se dit qu'en fait, comme disent les criminologues, on a affaire à un pattern, à un mode d'action. C'est-à-dire ce Ricardo, c'est un maître du mensonge, mais c'est aussi un maître des clichés.
Ouais, il évolue dans un imaginaire de touriste, en fait, parce qu'il est arrivé en France il n'y a pas très longtemps. Il est passé par l'Argentine, il est arrivé au Brésil. Et donc, en fait, il emmène les filles au Sacré-Cœur, après aux Champs-Élysées ou bien sous les ponts. Donc, c'est vraiment un imaginaire de carte postale. Mais c'est aussi un imaginaire nourri de films, comme vous disiez, c'est-à-dire de films, de clichés, de films, de répliques, probablement de films. Et d'ailleurs, il y a une version du montage où on avait illustré chacun de ses mensonges avec un extrait de film, en cherchant où il puisait son imaginaire. Et après, c'était un peu trop dans le commentaire, mais on a quand même gardé un extrait d'un Américain à Paris, et puis à la fin, la musique des Chariots de Feu, pour montrer que c'est un imaginaire de cinéma, et parfois de bon cinéma. D'ailleurs, son film préféré, c'est « Attrape-moi si tu peux ».
Ce qui veut tout dire, en somme. Et donc, à partir de cette femme, donc, on ne connaît pas son véritable prénom, mais dans le film, elle s'appelle Marianne. Est-ce que vous arrivez assez facilement à retrouver toutes les... Enfin, pas toutes, bien sûr, mais certaines autres victimes? Et comment vous les contactez? Qu'est-ce qu'elles vous disent? J'imagine que ce n'est pas évident d'avoir accès à ces témoignages.
Non, c'était difficile. Les contacter, c'était pas très compliqué parce que j'avais leurs coordonnées, parce que entre elles, à un moment donné, elles ont envisagé une action commune en justice, etc. Mais il y en a une qui a pris peur, donc ça s'est pas fait.
Parce qu'il a été assez menaçant, je crois.
Oui, il a été assez menaçant, oui, à un moment donné. Et puis surtout, il y en a deux d'entre elles qui n'en ont même jamais parlé à leur famille. Donc en fait, c'était pas seulement des menaces physiques, elles avaient juste peur que leur famille apprenne que ce gars n'était pas ce qu'il disait être, etc. Donc il y avait beaucoup de honte. Et quand je les ai contactées, effectivement, ça a été très long pour qu'elles acceptent de me parler, de me rencontrer. Mais le chemin, il s'est passé sur toutes ces années. Et là, on arrive même à un moment où il y a une avant-première où elles vont être toutes sur la scène. Et ce qui est ce qui était inimaginable il y a quelques années, le film, il leur sert aussi, je pense, comme un moyen de tourner une page ou de clore un chapitre. J'espère, en tout cas.
Mais vous parliez tout à l'heure de MeToo. Ça veut dire que ces femmes, enfin, qui vivent quand même une situation difficile, enfin, je pense que le mot n'est pas trop faible, qui ont été traumatisées, n'ont aucun recours juridique. Par exemple, on sait bien qu'en Israël, par exemple...
Oui, j'ai vu cette histoire, ouais.
Voilà, il y a une loi. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer synthétiquement, mais si une femme, en fait, a une relation avec un homme et que celui-ci lui ment sur tout... Ça peut être requalifié en viol.
Oui, absolument. Il y a eu une condamnation récemment d'un gars qui était, je crois, un rabbin, qui s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Mais en fait, en France, mentir à son compagnon, à sa compagne, n'est pas un délit. Donc, par exemple, Marianne, elle a porté plainte, mais pour escroquerie, pour l'argent qu'il lui avait emprunté, etc. Et la plainte a été classée sans suite. Après, je pense que si vraiment elle se regroupait et qu'elle faisait une action commune, ce qu'elles ont envisagé, peut-être qu'elles vont le faire d'ailleurs après la sortie du film, comme ça arrive souvent, ça leur donne un peu plus de force quand les affaires sont ébruitées ou médiatisées. Donc, mais techniquement, en France, c'est même pas une usurpation d'identité, puisqu'ils usurpent l'identité de personne. Ils créent une identité.
Donc s'il n'a rien volé, on ne peut rien faire juridiquement, en fait.
Oui, et même, il a même pas volé, puisqu'on lui a prêter de l'argent. Bon, et c'est là que c'est complexe, mais il a, techniquement, si, il devrait y avoir une qualification.
Ça, ouais.
Se pourrait-il que ce faux chirurgien prétende aussi être ingénieur chez Peugeot, dans les télécoms et médecin militaire? Comment serait-ce possible? Comment ferait-il? Avec Liana, une assistante, je commence à rassembler des éléments pour y voir plus clair.
Je pense que c'est le plus proche de son identité, celui-là.
Ouais.
Richard. Là, c'est quoi son famille? Avec Cassia?
Je sais plus. Ça ressemble toujours un peu à Coelho, en général.
Il y a aussi Gonzalves qui parle.
Ah oui.
Alors là, Sonia Kronlund, on vous voit avec votre assistante dans un bureau, un peu comme dans un commissariat de police judiciaire, avec des post-it, des cartes du monde partout. C'est un peu l'opposé du concept des pieds sur terre, où justement, on n'entend jamais la personne qui pose les questions. Là, vous, j'allais dire, vous vous mettez en scène. Peut-être pas, mais en tout cas, on vous voit en train de mener l'enquête pour retrouver ce fameux Ricardo.
Oui, oui. D'ailleurs, dans mon film précédent aussi, je m'étais mis en scène pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait, pour des questions narratives et cinématographiques, parce que ça fait quand même un fil conducteur. Et puis aussi... Pour en fait donner le change, pour voyez, vous filmez, vous êtes un peu moche, un peu voilà, et quand on filme les femmes et qu'on leur demande cet effort d'être devant la caméra, j'ai trouvé que c'était fair play de faire la même chose, et y compris de me confier un petit peu moi-même.
Et effectivement, on vous voyait dans Nothingwood, donc votre précédent film, vous étiez en Afghanistan pour suivre un homme fou de cinéma. Enfin, vous suiviez en Afghanistan un homme fou de cinéma. Mais là, il me semble que le cadre de votre apparition obéit à quelque chose de différent.
Bah, disons que je me sens plus proche des victimes que je l'ai été évidemment dans Nothingwood. Il n'y avait pas la même problématique. Mais le film, il évolue. Il commence par une enquête qui n'est pas une enquête... exactement journalistique, c'est plutôt une enquête personnelle, ou une enquête, on pourrait dire.
Ce serait quoi la différence ?
C'est-à-dire qu'en fait, les raisons pour lesquelles je fais cette enquête, je les explique, et ce sont des raisons personnelles. C'est parce que cette histoire me rappelle des choses que j'ai vécues, c'est parce que j'ai une certaine forme d'empathie, donc c'est pas une enquête comme la cellule d'investigation, voyez, la motivation est engagée, ou presque militante, on pourrait dire, d'une certaine façon. Mais le film évolue, et à la fin, je deviens... un personnage du film, voilà, c'est qu'on bascule vers un moment de cinéma-vérité où je ne suis même plus une enquêtrice, je suis un personnage.
Par exemple, vous allez chez l'avocate qui vous suggère en fait de ne pas montrer le visage de Ricardo. Mm-hmm. Enfin, elle vous le suggère, c'est un petit peu plus que ça. Enfin, elle vous dit que... Voilà.
Elle dit que si on veut un risque judiciaire zéro, on ne montre pas son visage. Et peut-être le risque judiciaire, c'est 1 sur 100.
Et juste après, vous montrez son visage.
Voilà, c'est une décision que j'ai prise aussi, un peu pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je ne peux pas demander à des femmes de témoigner et elles mettent des années à accepter de raconter une histoire ultra douloureuse, montrer leur visage, et lui, qui est quand même l'escroc qui leur a fait tellement de mal, le flouter pendant tout le film, vous voyez. Donc en fait, elle n'aurait jamais accepté de recevoir ce film si je floutais son visage à lui. Donc après, on a fait des tas de compromis sur la publicité faite autour du film, etc. Vous ne verrez son visage que si vous payez votre billet de cinéma.
Et votre présence dans le film, Sonia Kronlund, elle ajoute aussi au côté thriller. Parce que même si... Alors, j'explique aux auditeurs, l'un des premiers plans du film, ce sont deux enquêteurs à Cracovie. Donc, il est retrouvé, Ricardo, on est en bas de son appartement. Donc, bon, on sait que tôt ou tard, qu'il y a quand même une très, très forte chance pour que vous le retrouviez. Mais quand même, c'est un peu haletant, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes au Brésil, et puis vous passez devant la maison de ses parents, et puis vous n'entrez pas.
Oui, j'ai essayé de construire comme une enquête et comme avec un suspense. Voilà, j'ai toujours beaucoup peur de m'ennuyer personnellement. Donc, je voulais que le spectateur soit quand même conduit d'un début, avec, au pied sur terre, c'est pareil, enfin, un début, un milieu, une fin, puis qu'on ait envie de voir et de savoir ce qui se passe à la fin. Donc, ça, c'est du montage, c'est de la construction narrative et de la mise en scène, en fait.
Et comment vous avez travaillé ? Parce qu'on imagine ce film qui court sur plusieurs continents. Parce qu'on est en France, on part en Pologne, vous partez aussi avec votre équipe au Brésil. Il y a plusieurs temporalités aussi, puisque tout un travail d'archives. Donc on remonte vers le passé. Quand on part au Brésil, on a les débuts. On a un escroc qui fait ses débuts sur plusieurs femmes. Donc ça devait être un cauchemar de montage.
C'était pas un cauchemar, mais c'était un long travail extrêmement créatif avec Sophie Brunet, avec qui j'avais déjà fait mon film précédent. C'est quand même une centaine d'heures de rush. Et surtout, aussi un tournage qui s'est étalé dans le temps, parce que vous oubliez qu'entre le 2017 et 2024, il y a le Covid. Et donc, en fait, ça a été assez compliqué de tourner pendant ce temps-là. Et le documentaire, les documentaires sont vraiment des films qui s'écrivent au montage. La narration se trouve au montage. Enfin, vraiment, l'écriture principale se fait au montage. Et heureusement, j'ai une monteuse extra, donc...
Et le début, vous l'avez trouvé comment, ce début à Cracovie ? Commencez presque par la fin, en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'on avait engagé un détective privé pour essayer de le localiser et le retrouver. Mais aussi, bien évidemment, parce que le détective privé, c'est un personnage hautement cinématographique. On a tout le cinéma qui convoque. Tout le cinéma.
En plus, il se prend pour John Wayne, celui-là.
Voilà. En plus, j'ai trouvé un gars qui se prend pour gérer. Donc, c'était mon rêve d'engager un détective privé. Donc, à la fois, c'est pour le localiser, mais aussi parce que je sais que ce sera un personnage de cinéma. Et vous commencez le film avec un détective qui cherche quelqu'un. Avec un peu de chance, vous êtes un spectateur, vous avez envie de savoir s'il l'a trouvé. Et vous restez jusqu'au bout du film.
Il s'appelait Daniel. Il était médecin dans l'armée. Il était argentin. Alors, moi, ça m'a beaucoup charmée puisque je connais l'Argentine. J'ai tout de suite reconnu son accent. Sa mère était espagnole, donc ça a vraiment fait partie des choses qui m'ont beaucoup charmée chez lui, qui viennent de Buenos Aires.
Je l'ai rencontré dans un café brésilien à Paris. Et là, je m'assois en face de lui et on commence à parler. Il m'a dit qu'il s'appelait Ricardo, qu'il était ingénieur chez Peugeot et qu'il était brésilien.
Alors là, c'est Carolina qu'on entend. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, ou peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'au début, elles en parlent au passé. Et plus vous entrez dans l'histoire, plus ce passé devient du présent.
Complètement, ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le film, il y a deux ou trois vraies femmes, une actrice... et deux ou trois femmes qui jouent le rôle de leur copine.
Donc, parce que c'est des noms professionnels. Les vraies victimes n'ont pas voulu qu'on voit leur visage.
Donc il y a des vraies victimes qui ont accepté de parler. Il y a une actrice qui a joué le rôle d'une victime. Et la victime a d'ailleurs choisi sa propre actrice. On a fait un casting et je l'ai laissé choisir son actrice. C'était assez marrant. Et voilà. Et le film, effectivement, il part d'un récit au passé et il arrive à une fin qui se passe complètement au présent.
Et justement, est-ce que ces femmes avaient l'impression, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait une réparation possible via le film ?
C'est ce qu'elles disent. En tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier, je ne suis pas... Voilà.
Psychologue.
Psychologue non plus, mais peut-être que ce film va, comme je vous le disais, tourner une page et leur donner quelque chose. Et je le vois déjà, d'ailleurs, elles ont vu le film. Et voilà, c'est un moment important pour elles. Mais par exemple, il y en a une qui trouve que je ne suis pas du tout assez méchante avec lui.
Ah oui.
Ouais, que c'est pas assez. Elle veut vraiment le voir souffrir beaucoup plus que ça. Elle aimerait qu'il... Son fantasme, c'était qu'il rebitume l'autoroute, qu'il fasse vraiment des travaux forcés. C'était un peu son idée. Je lui avais dit, qu'est-ce que tu voudrais ? Elle lui dit, voilà, vider les poubelles, un truc vraiment humiliant, qui dit long sur sa honte et sur son humiliation.
Et on voit que justement que ces femmes, elles réagissent chacune différemment. Par exemple, l'une, vous le disiez, a une colère intense, l'autre a pitié de lui. Et Carolina, donc on vient d'entendre dans cet extrait, dit « je pense qu'il avait quand même un peu plus d'estime pour moi ».
Oui, à mon avis...
Ça fait mal quand même.
Oui, ben, c'est, voilà, elle dit qu'il a un peu plus...
Il y a une histoire d'aliénation quand même qui se dessine.
Oui, c'est des femmes qui sont comme, qui vivent avec le même homme en même temps, donc elles se comparent. Mais c'est une femme super, Carolina, c'est vraiment une femme française. Et je pense qu'elle a pas complètement tort, parce que elle vient quand même d'un milieu très modeste. La famille de Ricardo vient d'un milieu très modeste, donc je pense qu'avec elle, il était sans doute un tout petit peu plus à l'aise. D'ailleurs, il est resté assez longtemps avec elle. Voilà, donc je pense qu'elle a pas complètement tort. Mais tout ça, c'est des hypothèses, à vrai dire, j'en sais rien.
Oui, à vrai dire, c'est vrai que Ricardo joue beaucoup, lui aussi, des stéréotypes féminins. On parlait tout à l'heure de ses promenades sous les ponts de Paris, sous Notre-Dame ou sur la place du Tertre. Et puis, par moments, c'est compliqué pour lui. On a l'impression qu'il a un vrai tableau Excel dans la tête pour raconter ces histoires si différentes à autant de femmes et en même temps. Mais un jour, il y a forcément un problème. Et dans ce cas-là, il va dire « c'est une collègue qui est amoureuse de moi ».
C'est vrai qu'il n'a pas un imaginaire très déconstruit, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est quand même chirurgien, ingénieur. Il n'est pas intermittent du spectacle, vous voyez. Donc, il crée ça.
Il a envie d'être très riche, d'avoir une famille avec des domestiques.
Oui, il a un imaginaire comme ça, qu'un de mes collègues à France Culture a qualifié d'imaginaire de droite.
De droite,
oui. Ben oui, parce que c'est aussi
d'ancien pauvre, en fait.
Oui, de self-made man, de la réussite. Et la réussite, c'est avocat, médecin, ingénieur, vous voyez. C'est pas... Mais pour répondre à votre question, il est un tellement bon scénariste qu'il anticipe en créant des histoires et des sous-plots et des sous-histoires la possible découverte. Donc il y a des gens qui lui en veulent, et si une femme découvre, en fait, c'est ces gens qui lui en veulent, ou bien ce qu'il fait d'autre, c'est qu'il fait mourir ses parents dans une relation, il fait rapidement mourir ses parents. Mais il les fait mourir plus ou moins tôt selon que la fille est méfiante ou pas. Par exemple, avec la fille polonaise qui est très méfiante, les parents ils meurent tout de suite dans un accident de voiture. Avec Marianne, qui est moins méfiante, c'est un cancer. Vous voyez, donc la mère, elle a un cancer, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est aussi des stratégies perverses de manipulation atroces. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelqu'un vous dit, mais les deux parents sont morts dans un accident de voiture, vous n'allez pas lui dire, c'est pas vrai.
La réaction la plus intéressante, c'est quand vous partez au Brésil, où là, il a commis ses premiers méfaits. Mais avant, on va écouter un titre qui s'impose, « Dile a l'amor », donc « Dis-le à l'amour », du groupe Aventura.
Pues dile al amor que noto que mi puerta, que despedida, cuéntale las razones. Yes, sir. ¿Le gusta mi bachata, amiguita? De amor, no me interesa oír más canciones, no quiero ver flores. Si se trata de amor, tengo a dieta los sentimientos, evitando momentos de desilusión. Cupido, dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón he fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones.
Vous êtes bien sur RFI dans tous les cinémas du monde avec notre invitée Sonia Kronlund. Alors je le disais, vous partez à la fin du film au Brésil, où Ricardo a commis ses premiers méfaits. Et là... je trouve que la réaction des femmes est complètement différente. Beaucoup plus violente.
Oui, elles sont quand même très raides. il faut dire qu'il y a un truc au Brésil qui est intéressant, c'est-à-dire que toutes les procédures judiciaires sont accessibles en ligne. Et donc, en fait, il suffit de taper le nom de ce gars.
Mais voilà, quel nom ?
Que je ne vous donnerai pas.
Ah, son vrai nom.
Son vrai nom. Et vous avez toutes les plaintes qui ont été déposées contre lui. Et il y en a quand même vraiment un paquet. Donc je pense qu'il a commencé sa carrière d'imposteur ou d'escroc en y allant un peu plus fort qu'ici et en dérobant plus d'argent. Et donc c'est des femmes qui sont très, très, très remontées, en effet. Et il y a notamment deux policières qui sont des personnages auxquels je ne m'attendais pas du tout et qui sont vraiment marrantes parce que son arrestation, parce qu'elles ont quand même réussi à l'arrêter, c'est l'affaire de leur vie.
Ah oui,
ah, c'est l'affaire de leur vie. Ben, elles sont commissaires et son adjointe dans un commissariat ultra macho, ouais, quand même au Brésil. Tout le monde leur dit, vous n'arriverez jamais à arrêter ce gars-là. Et elle y arrive. Elle lui tend un piège et l'imposteur se fait piéger à exactement son propre jeu. Et là, elle jubile. Et elle jubile aussi devant la caméra de réévoquer cette histoire. Elle s'est des filles épatantes, quoi.
On a l'impression qu'il y a au sein de cet océan de machisme, il y a une espèce de bastion féministe. Alors, une de ses victimes, Paula, qui est esthéticienne, elle dit que je veux le couper en petits morceaux.
Oui, ouais, elle lui en veut beaucoup. Elle veut lui éclater la tête contre le trottoir, le découper en petits morceaux. Alors qu'on est en train de parler d'une histoire qui a probablement 15 ans. Mais voilà, elles réagissent de manière plus violente. Il y en a une autre qui est avocate, qui a 10 ans de plus que lui, et avec laquelle il se fait passer pour policier. C'est ses premiers faits d'armes. Donc il a un toki-woki toute la journée, il est appelé. Et en fait...
C'est toujours des métiers d'urgence, hein, où on peut un coup de fil et vous partez.
Mais je pense qu'avec elle, c'est vraiment cruel, parce que c'est une femme qui est plus âgée que lui, donc... Il lui fait croire qu'elle est en train de retrouver sa jeunesse comme un beau gosse. Il s'immisce dans sa vie. Elle a déjà des grands enfants. Donc, elle lui en veut vraiment. Et puis, c'est une femme qui est vraiment pour la justice, comme on appelle ça, la justice du talion, quoi. C'est pas une gauchiste.
Et il y a beaucoup de... C'est étonnant parce que vous parlez de la violence, hein, de cette séquence au Brésil. Il y a beaucoup de joie et de malice. Aussi.
Oui, mais parce qu'en fait, je ne suis pas très fan du terme sororité, mais on prend quand même du plaisir ensemble, ces femmes et moi, à essayer de voir comment on pourra parler de cet homme, comment on pourrait l'arrêter, comment on pourrait faire. Et le fait d'être filmé, je pense que ça leur redonne un peu de pouvoir. Donc en fait, on s'est aussi amusé pendant ce tournage.
Mais de dignité aussi.
Oui, de dignité, de pouvoir. Le cinéma, il a aussi cette force. Vous êtes dans un film, vous êtes un personnage de cinéma. Et donc c'est important. Ce qui vous est arrivé est important. et on va lui donner de l'importance. On va mettre la meilleure caméra, on va prendre le plus beau micro, on va faire un an de montage, parce que ce qui vous est arrivé est important et ça mérite qu'on le raconte.
Finalement, on a l'impression que Ricardo leur avait... Enfin, je l'appelle Ricardo, il a eu tellement de prénoms et de noms de famille aussi, mais on a l'impression que Ricardo leur avait volé leur vie et qu'avec ce film, alors peut-être que le terme est un peu trop fort, mais elle... Par les interstices, elles arrivent à se réapproprier justement leur
J'aimerais bien, j'aimerais bien. Je ne sais pas encore, en fait. Je peux pas vous dire. C'est pas l'unique but de ce film, qui est comme un film aussi pour les spectateurs et les spectatrices. Mais si ça pouvait les aider un peu, ce serait formidable.
Alors, à la fin du film, bon, il n'y a pas beaucoup de suspense puisqu'on se doute dès le premier plan à Cracovie que tôt ou tard, votre John Wayne détective va finir par remettre la main sur Ricardo. Hein. Il est planqué en bas de son appartement, mais on n'ira pas plus loin. Tout ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que la fin de l'homme aux mille visages est absolument géniale, géniale de drôlerie, d'intelligence, et que pour le coup, elle fait miroiter mille et une questions. Sonia Kronlund, merci beaucoup.
Bah merci à vous, c'est un beau compliment.
L'homme aux mille visages sort en salle mercredi prochain, et votre livre, lui aussi, est en librairie. Il s'appelle aussi L'homme aux mille visages, et c'est édité par Grasset. On se quitte avec We Gotta Let Go de Renaud Palissot et Astels. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré. C'est Apolline Berlon qui a réalisé cette émission avec Lorraine Nemoza. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à tous. But I wanna play it along with those block chords. Heart in mood, they never look like they should. But how could D&E not do it right? This is how we get to feel it. This is how we get to feel it. But come on, we gotta let go. This is how we get to feel it. This is how we get to feel it. But come on, we gotta let go.
Ratez la séance, podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. This is how-